en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Nous voudrions évoquer la figure de Raymond Aron, ce grand intellectuel français né en 1905 et mort le 17 octobre 1983. Il était membre de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques. Et nous souhaitons le faire avec vous, Perrine Simon-Naoum. Madame, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une intellectuelle spécialiste de la question des intellectuels en France. Vous êtes membre du CNRS et vous avez préfacé deux livres de Raymond Aron. D'une part, La dimension de la conscience historique, et nous consacrerons une émission sur ce livre-là. Et deuxièmement, un autre livre qui reprend un certain nombre d'interventions de Raymond Aron autour de la question de la condition juive. Raymond Aron, donc, est né en 1905. Il était camarade d'école normale de Jean-Paul Sartre. Et il a tenu, tout au long de ce siècle passé, une position à la fois universitaire et à la fois de journaliste. Il est intervenu de façon multiple dans le siècle. Et donc, il semble que depuis sa mort, en 1983, son influence reste importante, mais que peut-être la conscience que nos contemporains ont de son importance a disparu. C'est pourquoi nous souhaitions réactiver cette figure, la reprendre en considération, la réinscrire dans le paysage du XXe siècle, avec vous, Perrine Simon-Naoum. Est-ce que vous pouvez nous resituer un tout petit peu la figure intellectuelle de Raymond Aron, donc né en 1905 et mort en 1983, qui semble un tout petit peu tomber dans l'oubli, après que justement toute la période que lui-même a décrit et pour partie combattue soit tombée d'elle-même avec l'effondrement du mur de Berlin en 1989. Alors, redonnez-nous une idée, pour ceux des plus jeunes d'entre nous qui ne l'ont pas connu d'une manière ou d'une autre, une idée de cette figure intellectuelle qui a quand même dominé en France le siècle passé.
1905-1983, donc vous avez donné la date de naissance, la date de disparition de Raymond Aron, qui traverse donc le XXe siècle, siècle par excellence de l'histoire, à travers à la fois, bien sûr, l'avènement des totalitarismes et l'événement qu'a constitué la Shoah. Dans ce siècle, le rôle qui incombait à l'homme, à la génération qui a été celle de Raymond Aron, vous l'avez rappelé vous-même en introduction de cette émission, consistait à penser l'histoire et à essayer de déterminer, donc face à ces événements, face à ces grandes catastrophes, quel était le rôle possible, la place possible pour l'individu dans cette histoire qui semble effectivement l'avoir balayée. Alors Raymond Aron n'est pas arrivé tout armé, je dirais, de sa sagesse. Il appartient donc à cette grande génération dont on a l'habitude de rappeler à la fois la confraternité et l'amitié à l'école normale supérieure. Il est né dans une famille de la bourgeoisie juive parisienne puis versaillaise, rencontre dès le départ un certain nombre d'événements historiques. D'abord le rappel de l'affaire Dreyfus, très présente dans sa famille, en particulier à travers son père. Et puis, on l'oublie trop souvent, je crois, l'importance de la crise de 1929 qui va ruiner son père et dont celui-ci ne se remettra en réalité jamais réellement. Il entre à l'école normale brillamment en 1923. Et il appartient à cette génération donc de normaliens, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, qu'il va fréquenter donc tout au long de ses années à l'école normale 1924-1928. C'est cette génération qui finalement se trouve, après la Première Guerre mondiale, après la nécessité finalement de reconstruire une civilisation qui avait été en quelque sorte emportée par ce que Georges Mossé a désigné comme la brutalisation des sociétés, donc cette rencontre avec la violence, la nécessité de repenser la place de l'homme dans l'histoire. Et Aron s'inscrit dans ce que Frédéric Worms a appelé le moment de l'existence, donc la façon dont ces jeunes gens doivent, tout en congédiant la génération philosophique qui les avait précédés, celle du moment de l'esprit, les maîtres de Raymond Aron, Bergson, Braunschweig et même Alain, doit envisager donc une nouvelle forme d'inscription de l'individu dans l'histoire, pris entre liberté et nécessité, et surtout, je dirais, sans référence à une quelconque transcendance, sans référence à un principe de l'esprit ou à une puissance supérieure qui agirait sur ce destin de l'homme. Donc, voilà un petit peu le climat dans lequel se développe son adolescence. Et Raymond Aron, dans ce groupe de philosophes, s'affirme d'ailleurs assez précoce, comme en témoigne la soutenance, enfin les livres qu'il publie déjà à partir des années, du milieu des années 30, qui portent sur la philosophie allemande, se fait une sorte de passeur entre ce qui se passe en Allemagne, puisque contrairement, je dirais, à ses congénères, il a été voir sur place. Et la seconde étape, je dirais, après l'école normale supérieure, dans le parcours d'Aron, la seconde étape primordiale, c'est ce voyage en Allemagne entre 1930 et 1933, donc années au cours desquelles il assiste à la montée du nazisme, et qui vont provoquer chez lui une sorte de révélation. Il emploie lui-même le terme, et le faire passer, le faire diverger du chemin qu'il s'était fixé à l'école normale. Vous savez qu'il est parti en Allemagne en étudiant en quelque sorte avec le projet de travailler sur la biologie, et qu'à un moment, il aura cette phrase plusieurs fois au cours de sa vie, mais il le rappelle dans les mémoires, il dit « au bord du Rhin, à un moment, je décidais de moi-même ». Décider de lui-même, ça veut dire revenir à la philosophie. Il emprunte d'ailleurs cette expression, je pense, au traité de la réforme de l'entendement de Spinoza, mais également à Descartes. Je décidais de moi-même. Et surtout, se dire comment finalement, moi, Français, Juif, un petit point perdu dans cette immensité qu'est le monde, je peux arriver à me situer donc dans cet environnement, je peux arriver à comprendre la place qui est la mienne. Donc ce voyage en Allemagne et notamment l'autodafé du 10 mai 1933 auquel il assiste en compagnie de Golo-Mann va fortement le marquer. Il envoie d'ailleurs, vous savez, Sartre faire un voyage en Allemagne prenant sa place comme professeur au Havre. On sait que Sartre n'en tirera pas les mêmes conclusions. Mais donc Raymond Aron revient d'Allemagne, je dirais, avec cette conscience du réel, abandonne le pacifisme d'Alain et fait en quelque sorte donc son éducation politique pendant l'entre-deux-guerres. Arrive la Seconde Guerre mondiale et là, sa décision est très vite prise. Il s'engage et il part dès le mois de juin 1940 à Londres auprès des forces françaises libres. Troisième étape de sa vie, il les rencontre de façon un petit peu fortuite parce qu'il a ce désir, lui, de s'engager réellement dans les armes, mais on considérera qu'il sera plus utile autrement. Il devient chroniqueur à la France Libre, donc la revue fondée par André Labarthe, qui va accompagner donc tout ce mouvement des Français libres en étant proche de De Gaulle, sans jamais néanmoins se confondre du tout avec les positions gaullistes. Et donc là, Raymond Aron, je dirais, a une autre vision, une autre approche du réel qui est celle du journalisme. Journalisme auquel il apporte évidemment toute la hauteur de la philosophie et tout son talent, je dirais, d'analyste et d'écriture. J'accolerai à cette période de la guerre, la période de l'immédiate après-guerre, où il poursuit finalement cette activité, ayant une certaine appétence donc pour la réaction immédiate, pour l'analyse quotidienne et finalement ce qu'il entrevoit comme aussi un des rôles de l'historien, du penseur, du philosophe, qui est d'essayer d'éclairer la réalité. Cinquième grande étape dans son parcours, c'est celle qui est sans doute la plus connue, qui a fait l'objet de plus de commentaires, ce sont les années 50, ce sont les années de polémique avec Sartre, avec Merleau-Ponty, avec ce qu'il appelait les marxistes existentialistes, qui coïncident donc assez curieusement avec une reconnaissance institutionnelle, puisque au bout d'un certain nombre d'années de journalisme pur, finalement Raymond Aron choisit de revenir à l'université et il est élu en 1955, donc vraiment au fort de la polémique et je dirais de ce que ça lui a valu comme bannissement de la communauté intellectuelle, bannissement qui a quasiment duré jusqu'en 1983, donc jusqu'à la publication des mémoires qui ont précédé d'un mois finalement sa disparition. Donc ces années 50 sont à la fois celles du retour à l'alma mater, du retour à l'université, où il entreprend une œuvre de novateur puisqu'il y installe une certaine forme de sociologie. Il est élu à la Sorbonne à la chaire de sociologie. Et puis, parallèlement, donc, ce bannissement de la communauté intellectuelle. À partir de ces années, finalement, Raymond Aron va réaliser ce qu'il entendait lors des entretiens avec Jean-Louis Missika et Dominique Volton comme la figure du spectateur engagé. Non pas que, donc vous le voyez, son engagement date des années 50, il est, on l'a vu, bien antérieur et il n'a jamais quitté, mais il va donc marcher sur deux pieds, à la fois, je dirais, la philosophie, et c'est un peu le rôle de cette réédition des Dimensions de la conscience historique de montrer que Raymond Aron n'a jamais abandonné le terrain philosophique, qu'il a toujours poursuivi sa réflexion, et puis l'analyse de la contemporanéité, du temps présent, puisque Aron est vraiment un philosophe du temps présent, et vous avez un certain nombre de grands livres donc, qui vont jalonner ce parcours. D'abord, il faut le dire, une position, là encore, relevant d'une analyse très précoce que peu d'observateurs avaient tenue aussitôt que lui. Position qui le place un petit peu en marge de son propre camp politique, qui est que très tôt, Raymond Aron se prononce pour la décolonisation. C'est notamment une idée qu'il développe dans un livre intitulé « La tragédie algérienne » dès 1957. Mais c'était déjà une analyse qu'il avait faite dans les années 40 dans les articles parus dans La France libre, l'idée que la France ne pouvait plus tenir son rôle impérial après la Seconde Guerre mondiale et que ça n'était même pas souhaitable. Une analyse ensuite des démocraties et des régimes totalitaires, à la fois d'un point de vue de la théorie économique, de la théorie des régimes, mais aussi d'une considération des élites, et on retrouve son intérêt pour Pareto, et puis de la lutte des classes à travers son intérêt pour Marx. Et puis, ce qui est aussi remarquable dans le champ intellectuel français, un intérêt très grand pour les questions internationales, que Aron connaît bien. Je veux dire qu'il a beaucoup lui-même voyagé aux États-Unis, il a beaucoup de contacts à la fois du côté allemand et dans le monde anglo-saxon. Il y a des interlocuteurs réguliers et donc c'est l'époque des grands livres comme « Paix et guerre entre les nations » qui paraît en 1962 et bien sûr « L'étude sur Clausewitz » en 1974, dont seront également une émanation, je dirais, ses derniers livres comme « Plaidoyer pour une Europe décadente » ou « Les dernières années du siècle ». Donc ces années 1960-1970, qui sont des années d'intervention et d'observation de la réalité politique nationale à travers la décolonisation, à travers la réaction au mouvement de mai 68, à travers les analyses politiques qu'il continue à donner dans le Figaro jusqu'en 1977, puis après son départ du Figaro dans l'Express jusqu'à sa disparition, et en même temps cette poursuite des réflexions sur l'histoire qui prend soit la forme de réflexions juridico-politiques, soit la forme de réflexions sur les relations internationales.
Alors il y a deux choses qui frappent dans le panorama que vous venez de faire donc, et qui permet de retracer effectivement toute sa vie à la fois personnelle et intellectuelle. Il y a deux choses qui sont très frappantes. La première, c'est qu'on a le sentiment effectivement qu'il a été convoqué par l'événement. C'est-à-dire qu'il était plutôt philosophe, plutôt pas très intéressé par l'histoire et par les... Et puis subitement, effectivement, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose et que c'était son devoir que de le comprendre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, est-ce qu'on peut dire qu'il était quoi, un libéral français, dans la continuité du libéralisme français, d'où la grande difficulté qu'il a eue à être compris par ses congénères, donc par tous ceux qu'il avait fréquentés à l'école normale. Peut-on dire de lui qu'il est plutôt un anti-communiste primaire, enfin, qui lui a effectivement mis à dos tous ceux qui étaient plutôt de cette obédience-là, enfin, comment est-ce qu'on peut définir sa position politique, sans être politicienne, mais sa position politique durant cette période-là, donc après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 1980. Enfin, 83 pour être exact.
Raymond Aron, convoqué par l'événement, évidemment, et je crois que c'est la très grande lucidité qu'il a eue dès le début des années 30 qui lui ont permis finalement d'élaborer la position qui a été la sienne. Lucidité d'ailleurs partagée par peu de gens, un nom quand même à citer, celui d'Élie Halévy, que Raymond Aron rencontre au début des années 30 et auprès duquel, je dirais, il forge son analyse de la faiblesse des démocraties face au totalitarisme. Et c'est ça qui est, à mon avis, l'un des traits les plus frappants de la pensée aronienne avant la Seconde Guerre mondiale. C'est cette prise en compte, finalement, de la capacité des événements à bousculer des structures que les autres penseurs, les autres philosophes de sa génération ou de la génération précédente pensaient finalement pouvoir invoquer contre l'histoire se faisant. C'est le cas par exemple de Léon Braunschweig qui pensait finalement que la raison devait à terme l'emporter et les démocraties vaincre les totalitarismes. Aron a très tôt ce sentiment, donc il puise au contact d'Élie Halévy dont il fera l'édition du grand livre « L'ère des tyrannies » puisque Halévy disparaît prématurément en 1937, à savoir l'idée que les démocraties sont fragiles. Ça ne veut pas dire que l'homme se laisse dépasser par les événements. Et c'est là la grande force de Raymond Aron et de sa pensée de l'histoire. Et c'est ça qui va le distinguer, je crois, de la plupart des penseurs de sa génération, donc qui l'accompagnent sur le chemin de l'histoire. Raymond Aron a d'une part, très tôt, et il le prend, je dirais, de la philosophie allemande, de l'historicisme allemand, de gens qu'il lit très tôt, alors qu'ils ne sont pas encore traduits en France, comme Diltay, philosophe des sciences de l'esprit, ou Max Weber, dont il va être l'un des introducteurs en France. Raymond Aron sait que les événements historiques sont des événements construits, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'accès immédiat à l'histoire. Et à partir de là, il importe que le philosophe se mette aussi au service de ses contemporains pour, en quelque sorte, traduire, pour analyser les conséquences des événements auxquels il appartient. Et je pense que c'est cette force conceptuelle, la force de ce cadre théorique qui lui a permis de ne pas être emporté par les événements et de s'en tenir toujours à distance, tout en étant évidemment très concerné par ceci.
Alors, je voudrais terminer cette première partie sur une présentation générale de Raymond Aron par un moment particulier. Donc Raymond Aron, qui n'a jamais recherché les honneurs, mais qui a toujours considéré que quand il venait ces honneurs, ça lui permettait de consacrer un peu effectivement son travail tel qu'il avait été entrepris. Donc est élu le 25 novembre 1963 à l'Académie des sciences morales et politiques. Et donc le 15 janvier 1965, on remet à Raymond Aron son épée d'académicien. Et à cette occasion-là, il fait un petit discours que je me permettrai de vous demander de commenter un tout petit peu. Je ne cite que le début. Il y a une quarantaine d'années, donc nous sommes le 15 janvier 1965, il y a une quarantaine d'années sur les bords du Rhin, alors que je lisais passionnément Hegel, Marx et Max Weber, j'ai conçu le projet qui restait le mien, penser l'histoire en train de se faire, en assumer les servitudes avec autant de lucidité que possible, en déchiffrer la signification sans jamais oublier que cette signification n'est ni inscrite dans les faits, ni déterminée à l'avance. Ce projet ne me destinait pas nécessairement aux activités diverses qui ont été ou qui sont les miennes, mais il m'exposait à une tension intérieure entre une science, animée par une inquiétude philosophique, et une action que je souhaitais éclairer par la connaissance objective. Est-ce qu'on peut dire que c'est là, effectivement, ressaisi au moment où, effectivement, il est introduit à l'Institut, un condensé, disons, de l'idée qu'il se faisait de lui-même?
Oui, je crois que ce passage où Raymond Aron rappelle donc ce moment originel des années 30, ce voyage en Allemagne que j'évoquais tout à l'heure, laisse en réalité, montre beaucoup de choses de lui-même. Raymond Aron était quelqu'un de très discret, qui ne se mettait jamais, vous l'avez rappelé, qui ne se mettait jamais en avant et ne recherchait sûrement pas les honneurs. On y a vu d'ailleurs très souvent, toujours dans le rappel des polémiques avec Sartre, l'idée que Raymond Aron serait une sorte d'esprit froid et raisonneur, on voit à travers le rappel de cet épisode que Raymond Aron est à la fois quelqu'un de très grande tension intérieure, tension de son projet intellectuel, mais je dirais aussi tension de son être existentiel, puisque c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de moments tragiques dans sa vie, beaucoup de moments heureux, mais aussi beaucoup de moments tragiques. C'est quelqu'un qui avait un certain humour, et vous auriez pu rappeler la phrase d'Hérodote donc, qu'il avait fait graver sur son épée, dont Nicolas Bavrez, dans la très belle biographie qu'il consacre à Raymond Aron, explique qu'en réalité, s'il l'avait fait graver sur son épée, c'était pour, peut-être pour se rappeler que lui-même n'y croyait pas.
Alors la citation donc, d'Hérodote, gravée sur son épée, est la suivante. « Nul homme n'est assez dénué de raison pour préférer la guerre à la paix. »
On sent bien donc toute cette tension. D'une part parce que ce que nous dit Raymond Aron à travers Hérodote, c'est que parfois il faut la guerre, et il le savait mieux que tout le monde. Et puis ce qu'il nous dit aussi, c'est que finalement à Hérodote, je crois qu'il préférait Thucydide. Thucydide qui était à la fois un observateur avisé, mais un homme de passion. Et ce que Raymond Aron a cherché à conjuguer toute sa vie, c'est ce que dit bien ce discours inaugural à l'Académie, c'est à la fois donner toute sa place à la raison, mais en même temps forger une théorie de l'action. Et finalement, ne pas se refuser, ce qui le distingue, je crois, de Max Weber, duquel il était très proche par ailleurs, mais ne pas se refuser l'idée que, à terme, il pourrait y avoir un horizon régulateur de la raison et finalement un sens qui soit un sens rationnel et peut-être heureux à l'histoire.
Donc nous avons vu avec vous, Perrine Simon-Naoum, la figure intellectuelle de Raymond Aron, les différents moments, c'est-à-dire à la fois le moment donc, de 1938 où il entre dans l'université et s'oppose frontalement au positivisme ambiant, la place qu'il a occupée pendant la guerre à Londres, et puis cette opposition massive qui a été la sienne dans les années 50 contre les marxismes imaginaires, contre tous ceux qui imaginaient que le communisme était l'alpha et l'oméga du progrès humain, et puis progressivement ses différents autres travaux. Je signale à nos auditeurs que nous consacrerons une autre émission avec Perrine Simon-Naoum sur un livre en particulier de Raymond Aron qui s'appelle donc « Dimension de la conscience historique ». Et donc je renvoie nos auditeurs qui seraient intéressés par Raymond Aron, d'une part à ses mémoires qui sont parues en 1983, donc quelques semaines avant qu'il ne meure, et deuxièmement à la biographie donc, qui a été consacrée par Nicolas Bavrez à Raymond Aron, donc qui est paru chez Flammarion, et biographie publiée en 1993. Merci beaucoup, et donc je renvoie nos auditeurs à cette autre émission que nous ferons autour de Raymond Aron sur Dimension de la conscience historique.